بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir après la salat al-Isha dans la masjid pour parler du dîn d'Allah, pour se faire du souci sur notre iman. L'objectif des majlis, des assemblées, on parle d'Allah Azza wa Jal. L'objectif unique, c'est quoi? C'est de se rappeler de la grandeur d'Allah, de se rappeler de l'importance que le musulman doit donner à la pratique de sa religion, l'importance que le musulman doit donner à l'adoration de son créateur et l'importance que le musulman doit donner à la préparation de sa vie après la mort. C'est pour ça que ce soir, Inch'Allah, on va, plutôt que de traiter, de continuer avec Ad-Dajjal, plutôt que de continuer avec Dajjal, on va profiter de la fin de cette année 1431-32. À la fin de cette année 1431, et le début de la nouvelle année 1432, Inch'Allah, on va essayer de faire, pas un récapitulatif, mais on va essayer, Inch'Allah, de se fixer des objectifs pour cette nouvelle année islamique, cette année 1432. En général, quand on est à la fin d'une année, les entreprises, ils font quoi? Ils font l'inventaire, ils font le bilan. Il y en a qui font des pots de bilan aussi. Mais en général, à la fin de l'année, on essaie de voir comment est-ce qu'on a vécu cette année. Est-ce qu'on a gagné plus d'argent ou on a perdu plus? Même les médias et tout, ils font des rétrospectives, ils essaient de revoir les faits, les moments importants de l'année. Et pour monsieur tout le monde, lorsque on est le 31 décembre, à minuit, c'est la nouvelle année qui commence. L'année dernière, c'était 2011, là c'est 2012, etc., etc. D'une manière générale, on se rend compte que chaque personne donne une certaine importance à l'arrivée d'une nouvelle année. Bon, on parle de l'année grégorienne, tantôt l'année islamique. Mais d'une manière générale, les populations ne donnent, pour eux, le commencement d'une nouvelle année, c'est quoi? C'est un roulement perpétuel. Et celui qui n'a pas le iman, sa relation avec le temps est inexistante. La relation du kafir, la relation de la personne qui n'a pas iman dans son cœur avec le temps est une relation inexistante. Alors que la relation du musulman avec le temps, c'est une relation d'angoisse. Le temps qui passe pour un musulman, c'est quelque chose d'angoissant. Tandis que pour le kafir, le non-musulman, il fête la nouvelle année. Il se réjouit de la venue d'une nouvelle année avec de l'espoir et tout. Mais en aucun cas, celui qui n'a pas iman, une seconde, il se retourne et il regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a cumulé comme action. En aucun cas, il va faire un bilan de ses actions. Il va faire peut-être un bilan de ce qu'il a gagné comme argent, le bilan de son travail, de son commerce ou autre chose. Mais le bilan de ses actions bonnes comme mauvaises, c'est uniquement celui qui a iman en Allah Azza wa Jal. C'est uniquement cette personne-là qui se fait du souci pour le temps qui passe. Alors, le musulman, lorsqu'il voit le temps qui passe, comment il doit réagir? Tout d'abord, il prend conscience que, subhanallah, les années qui s'enchaînent nous rapprochent de la fin du monde. La fin du monde qui a été annoncée par Allah Azza wa Jal. Chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, c'est la fin du dunya qui est en train de se rapprocher. Et si ce n'est pas la fin du dunya, c'est ne serait-ce que la fin de mon ruh, c'est la fin de mes jours qui ont été comptés, qui m'ont été accordés, la fin de mon rizq, la fin de ma subsistance qu'Allah Azza wa Jal m'a accordée. Et lorsque le musulman voit, il constate que le temps passe de plus en plus vite, et ça même les non-musulmans le constatent. Ils disent que le temps passe vite et tout, la journée, la semaine commence, elle se termine immédiatement. Mais le musulman, il est conscient que ça aussi, subhanallah, ça fait partie des petits signes, des petits ashraf, sa'asura, des petits signes de qiyama, le fait que le temps passe de plus en plus vite et qu'il y a de moins en moins de bénédictions, de moins en moins de baraka dans le temps. Le musulman également, troisième point, on va un peu vite, le musulman, lorsqu'il voit le temps qui passe, lorsqu'il voit les années s'enchaîner, il prend conscience que, subhanallah, j'ai une espérance de vie qui est limitée. C'est-à-dire, viendra un moment où je vais quitter ce dunya et retourner vers Allah. Celui qui n'a pas iman, il est conscient également qu'un jour il va mourir. Il sait que les années qui passent, c'est des années en moins, mais pour lui, le rapport avec le temps est inexistant. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour lui, plus il va vivre, ben, il va essayer de profiter au maximum jusqu'au dernier jour des plaisirs de ce dunya. Tandis que le musulman, il sait que peut-être j'ai encore 2 années à vivre, 10 années, 20 ans, 30 ans, subhanallah, Allah seul le sait. Mais en tout cas, Al-Ajal va bientôt se terminer. Le temps qui m'a été accordé par Allah Azza wa Jal, hein, sa fin s'approche de jour en jour, d'année en année. Et donc, en conclusion, lorsqu'il voit le temps qui passe, il prend conscience que d'année en année, je m'approche de ces événements qui m'attendent. Je m'approche de ces événements qui m'attendent et qui attendent également n'importe quel musulman, mais également n'importe quel être humain, n'importe quelle créature d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que je m'approche de cet événement important où Malik al-Maut viendra un jour reprendre mon ruh, reprendre mon âme. Je m'approche de cet événement, je m'approche de ce moment où un jour mes proches, mes frères, mes soeurs ou mes enfants vont me prendre et ils vont me poser, subhanallah, dans le qabr, dans la tombe et ils vont m'enterrer. Je m'approche également de ce moment où Allah Azza wa Jal me ressuscitera avec la totalité de la création et je m'approche de ce moment où Allah Azza wa Jal me remettra mon livre de compte, soit dans la main droite, avec fierté que je vais le prendre, Inch'Allah, ou alors qu'Allah nous protège avec la main gauche, avec cette humiliation derrière le dos où la personne voudra se cacher. Et je m'approche également de ce moment où Allah Azza wa Jal va m'appeler par mon nom, le nom de mon père, pour que je sois jugé auprès de son tribunal, pour que mes actions soient pesées dans la balance, et que par le résultat de ces actions, je vais devoir franchir ce pont qui mène au paradis, mais qui avant passe par l'étape du Jahannam, le Jahannam qui est sous Asra, sous ce pont. Et donc je m'approche de ma destinée, soit le paradis, soit l'enfer, et cette destinée, c'est le taqdir d'Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun doute, mais ce taqdir, je le construis avec mes mains. Ce taqdir, c'est prédestiné par Allah, mais je le construis avec mes mains. C'est moi qui creuse ma tombe, c'est moi qui organise comment je vais entrer dans ma tombe. C'est moi qui organise comment je vais accueillir Malik al-Maut. C'est moi qui organise comment sera ma vie dans ma tombe. Ça, c'est la différence énorme qu'il y a entre yani, le rapport avec le temps du musulman et le rapport avec le temps par rapport au mu'min. Pour le non-musulman, comme on a dit, c'est le temps qui passe, c'est une nouvelle année, on va festoyer et on va fêter donc l'arrivée de la nouvelle année sans se soucier du nombre d'années qui me restent, et sans se soucier des années qui sont passées et des choses que j'ai pu faire et ceux que je n'ai pas fait. Parce que pour le kafir, il n'y a pas de hisab. Dans son cœur ou dans sa tête, il n'a pas intégré le fait qu'un jour il devra rendre compte de ce qu'il a pu faire, rendre compte de ce qu'il a pu dire, rendre compte des années qu'il a passées dans ce dunya. Alors que le mu'min, il sait que chaque parole, chaque action, chaque fait, chaque geste est comptabilisé et lui sera présenté. Ça, c'est des paroles, subhanallah, très générales, des paroles extrêmement générales, peut-être moins croustillantes que Ad-Dajjal, moins croustillantes que Imam Mehdi, moins croustillantes que Ya'juj ou Ma'juj, mais subhanallah, tellement, tellement plus important. Parce qu'il n'y a pas une personne parmi nous qui, inshallah, verra Ad-Dajjal, ou qui verra Ya'juj ou Ma'juj, ou Isa ou Al-Mehdi. Mais par contre, chacun parmi nous, verra un jour Malik al-Maut s'approcher et tirer son âme. Soit on va le voir comme un monstre, comme quelqu'un d'horrible, effrayant, soit on le verra comme un ange. D'accord ? Et dans certains commentaires, il dit que le fait de voir l'ange de la mort sous son aspect magnifique, c'est déjà une récompense pour le mu'min. C'est-à-dire, ça suffirait pour combler le musulman, pour le gratifier de toutes ces bonnes actions qu'il a pu accomplir de ce dunya. La vision basse de Malik al-Maut. D'accord ? On est sûr que chacun parmi nous va vivre les mawaqif, les différentes étapes qu'on vient de citer, mais par contre, Inch'Allah, personne parmi nous verra les grands signes de Qiyam. D'où l'importance, ça c'est l'essentiel. Ainsi donc, ce musulman intelligent, lorsqu'il voit le temps passer et lorsqu'il voit sa vie s'écouler, hein, il réfléchit à 3 choses. Premièrement, comment est-ce que je passe les années qu'il me reste dans l'obéissance d'Allah. Ça, c'est l'objectif du musulman. L'objectif premier, comment faire en sorte que les années qui viennent, ce seront des années que je vais passer dans l'obéissance d'Allah. Et par opposition, comment faire en sorte que les années qui me restent à vivre, Allahu a'lam combien, comment faire en sorte que ces années-là, je ne les passe pas dans la désobéissance d'Allah. Qu'il n'y a pas un instant, une fraction, je ne dirais pas de seconde, mais un jour ou un moment, de ce temps qui m'a été donné par Allah, que ce temps-là, je ne le passe pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment, au fur et à mesure que les années passent, j'arrive à faire la part des choses dans ma tête, entre le din et le dunya. J'arrive à comprendre qu'est-ce qu'Allah azza wa jal attend de moi par rapport à la préparation du akhira, et qu'est-ce qu'Allah ta'ala attend de moi en termes de huquq ou nas, de droits des gens, concernant mon implication dans la vie de ce monde, dans la vie de ce dunya. Donc le musulman intelligent, al-muslim zaki, celui qui est clairvoyant, c'est quelqu'un qui, d'année en année, il fait en sorte que sa foi augmente, il fait en sorte d'accomplir de plus en plus de bonnes actions, et il fait en sorte d'améliorer ses relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le message essentiel, c'est quoi? C'est d'avancer dans le dîn. Le message essentiel, c'est quoi? C'est d'avancer dans sa foi, c'est d'avancer dans son iman. Hein, tout comme on aime avancer dans le travail. Hein, si une personne commence sa carrière en touchant le SMIC, ben, il aimerait bien qu'après 2 ans, ben, il ait une augmentation, qu'il ait une promotion, et qu'après 10 ou 12 ans ou 13 ans, ben, si après 15 années de travail, la personne est toujours vendeur d'un magasin, il est toujours en train de mettre les marchandises sur le rayon et nettoyer et tout, ben, ça veut dire que la personne ne progresse pas. Ça veut dire que si après 3 ou 4 années, subhanallah, la personne, hein, il voit son grade augmenter, son salaire doubler, voire tripler, ben là, la personne peut se dire que j'ai eu une belle carrière, j'ai eu une belle carrière professionnelle entre le jour où j'ai intégré l'entreprise et après 20 ou 35 années où je suis devenu presque responsable, cadre ou je ne sais quoi, ben la personne, elle est satisfaite de son parcours. Mais pareil, nous devons être satisfaits de notre parcours dans le dîn. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas satisfait, on se contente. On se contente de ce qu'on fait, avec la conviction que ce qu'on fait, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne font rien. Quand on voit une personne qui ne vient pas à la salah, une personne qui est dans des péchés vraiment beaucoup plus graves que ce qu'on fait, ben, on a un sentiment d'autosuffisance. On se dit que ben, de toute façon, moi je viens à Namaz. De toute façon, moi je ne bois pas. De toute façon, moi je ne fais pas l'adultère. Donc si je cumule quelques petits péchés, ou si il y a des fois je ne viens pas à Namaz, je ne fais pas un fajr ou deux, ben, ce n'est pas trop grave parce que mon voisin, lui vraiment, il est dans une situation beaucoup plus difficile. Mais malheureusement, ce musulman-là, il n'a pas compris c'est quoi avancer dans la religion. Lorsque notre prophète, alayhi salatu wasalam, dit « Al-Kayyisu ». Al-Kayyisu, c'est quoi? C'est le musulman intelligent. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le musulman intelligent, c'est ce musulman qui travaille pour la vie après la mort. C'est ce musulman qui prépare son après-vie, qui prépare l'étape du akhirat. Ce n'est pas celui qui va cumuler des diplômes, qui va cumuler des stages, des formations pour avoir tel poste. Non, c'est ce mu'min qui vit sa vie de dunya comme tout le monde, mais dont l'objectif principal ne se détourne pas de la préparation de sa vie après la mort. Et dans un verset du Coran, lorsqu'Allah Ta'ala dit « Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar » pour ceux qui d'entre vous veulent avancer ou reculer. Il y a que soit on avance dans le din, soit on recule. D'accord? Ça c'est clair. Et certains mufassirin disent même فَمَلْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَقَدْ تَأَخَّرْ, que celui qui n'avance pas dans son din, ben en fait, il n'a pas stagné, parce que dans le din, on ne stagne pas. On regarde bien les masa'il d'aqidah, les ulama disent que الْإِمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصْ يَزِيدُ بِالطَّاعَةُ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةُ. La foi augmente, la foi c'est quelque chose qui bouge. Soit elle augmente, soit elle diminue. Mais la foi ne reste pas stable. Et les ulama disent que celui qui n'avance pas dans son din, en fait, il n'a pas stagné. Cette personne est en train de régresser. Et les ulama disent, hein, il y a une citation magnifique de Ibn Rajab al-Hanbali, il dit que كَانَ الصِّدِّيقُونَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَكُونُ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِهِمْ بِالْأَمْسِ. Les grands savants, les grands pieux, les hommes pieux, les siddiqines, hein, ils avaient honte auprès d'Allah Azza wa Jal qu'aujourd'hui, qu'ils soient dans le même état spirituel que hier. Ils avaient honte qu'aujourd'hui, mardi par exemple, ils aient le même degré de iman, ils aient le même quota de bonnes actions que hier. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas progressé, ne serait-ce en une journée. Et le souci, nous, c'est quoi? C'est qu'on se contente de ce qu'on fait. Bien sûr, si on accomplit les piliers d'islam, on accomplit l'essentiel. Mais le musulman, malheureusement, hein, il se doit, et ça c'est pas ce qu'on voit, Wallahu musta'an, le musulman, il devrait se faire du souci pour avancer dans son dîn. Et quand on parle d'avancer dans la religion, cela touche trois principes. On va dire rapidement chaque principe. Normalement, c'est un sujet à développer. On doit travailler la quantité des actions, on doit travailler la diversité des actions et enfin travailler la qualité des actions. J'explique, la quantité des actions, bien sûr, c'est de faire de plus en plus, d'accord? Si un bilan d'échec, ce serait quoi? Un constat d'échec, ce serait quoi? Si après une année passée, je me rends compte que je n'ai pas avancé dans ma salah, c'est-à-dire que je fais que mes 5 salah, mais je n'ai pas essayé, c'est-à-dire après Ramadan, on prend de bonnes habitudes pendant le mois de Ramadan. Si je me rends compte qu'après le mois de Ramadan, je n'ai pas pris la bonne habitude, par exemple, de faire tahajjud, ne serait-ce que le jeudi soir, allez, une fois par semaine, on commence une année en faisant tahajjud une fois le jeudi soir, et puis l'année d'ensuite, on passe à 2 fois, et l'année d'ensuite à 3 fois, jusqu'à arriver à un stade où je me réveille tous les soirs pour qiyamul layl. Si je me rends compte qu'après 5 ou 6 ans, juste par rapport au salat, je n'ai pas fait un pas ou 2 pas en avant, c'est un constat d'échec. Même si je n'ai pas manqué mes salat faraz, mais c'est un constat d'échec parce que je ne me suis pas plus rapproché d'Allah, je n'ai pas fait plus d'efforts pour me rapprocher d'Allah. Et par opposition, si on analyse les péchés, si d'année en année je me rends compte que j'accomplis les mêmes péchés que l'année depuis 95, depuis 2000, depuis 2005, j'accomplis exactement les mêmes péchés, c'est les mêmes défauts que je retrouve en moi, là aussi c'est un constat d'échec, même si je demande tawba régulièrement. Même si je demande pardon à Allah, il ne faut pas dormir. Non, il faut pas. Même si je demande pardon à Allah régulièrement, c'est un constat d'échec. Pourquoi? Parce que le fait de se rapprocher d'Allah, ça passe par 2 choses. L'accomplissement de bonnes actions et l'éloignement des péchés. Et vous savez, qu'est-ce qui est plus dur entre les deux? C'est quoi? C'est l'éloignement des péchés. Accomplir de bonnes actions, beaucoup de gens peuvent le faire. De l'Ramadan, on ne mange pas. De l'Ramadan, on fait tahajjud, on fait tarawih, on fait beaucoup de bonnes choses. Mais s'éloigner des péchés, ce n'est pas une mince affaire. Maintenant, si on dit à... Pas salih, ce salih, il est pas dedans, il n'y a pas de souci. On dit à quelqu'un, hein, là, c'est période de fête. Période de fête, c'est dans la rue, subhanallah, en termes de contrôle du regard, il faut être champion poids lourd, d'accord? Donc, si on dit à une personne que, en sortant de la masjid, passer la rue Marshal Leclerc ou la rue Jette de Dieu ou peu importe, garder le regard baissé depuis la rue Marshal, depuis la masjid jusqu'à sa maison, ça c'est dur, ça c'est du boulot. Maintenant, dire à quelqu'un depuis ici jusqu'à chez vous, faites dhikrullah, faites tasbih, tout le monde peut le faire. D'accord, dis Zoubert, depuis ici jusqu'à la maison, rue Jette de Dieu, fais dhikr. Il va le faire. Mais dire à une autre personne, parce que lui, alhamdoulilah, il arrive, mais dire à une autre personne de garder le regard baissé depuis ici jusqu'à sa maison, ça, c'est moins évident. Dire à une personne que voilà, fais en sorte de ne pas t'engager dans des transactions avec des termes qui sont contraires à la shariat, d'accord, même si tu as besoin d'acheter telle voiture ou telle maison ou tel produit, d'accord, mais en aucun cas ne fais pas d'emprunt avec la banque, fais attention à telle chose, fais attention à ce qui rentre dans ta poche et ce que tu manges, à ton risque. Ça, c'est extrêmement difficile. Si on dit à une personne, à partir de maintenant, fais attention, quand tu as tes collègues de travail, on n'a pas besoin de faire la bise, pas besoin d'avoir des relations extra-professionnelles, plus qu'il n'en faut, ça aussi, parfois, ça devient difficile. Et les ulama, subhanallah, ils ont dit qu'il y a 2 choses qui piègent l'être humain. C'est al-mal ou al-jins, l'argent, tout ce qui est en rapport avec les biens et tout ce qui est en rapport avec la passion charnelle. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à contrôler. Donc, me rapprocher d'Allah, en termes de quantité d'actions, c'est faire plus de bonnes actions et d'année en année, diminuer le quota de péché. Et pour ça, il faut demander doua à Allah. Qu'Allah nous accepte, demander à Allah de nous aider à nous rapprocher de lui. Parce que si Allah a vu qu'on a fait un premier pas vers lui, la règle générale, c'est ça. Si Allah a vu que j'ai fait le premier pas, mais automatiquement, Allah m'ouvrira les portes de Kaboul. Allah me donnera la possibilité de continuer dans cette voie. Donc, deuxième point, on ne va pas tarder. Nawiyatul a'mal, la diversité des actions. C'est-à-dire que quand je progresse dans le dîn, je dois progresser dans l'ibadat, dans le culte pur, dans ma relation avec Allah. Je dois également progresser dans mon akhlaq, dans mon comportement, dans mes relations avec les gens, et progresser dans tout ce qui s'appelle mu'amala et mu'ashara, c'est-à-dire dans la vie sociale, faire plus en plus attention à ce que je gagne, à mes revenus et à mon rapport d'une manière générale avec le dunya. Le deuxième point, on ne va pas trop développer. Et le troisième point, kayfiyatul a'mal, progresser dans la religion passe obligatoirement par ce troisième point, pardon, la qualité des actions. C'est-à-dire, faire beaucoup d'actions, ce n'est pas l'objectif. Faire une certaine quantité d'actions avec la qualité qu'il y a, ça c'est le plus important. D'accord ? Les sahaba de Dwanullahi alayhi majma'in, ils faisaient certes beaucoup d'actions, mais ce qui distinguait leurs actions, c'était la qualité des actions. Quand un sahaba il faisait ses 5 farazes, ses 5 prières quotidiennes, ben c'était 5 comme nous. Le Isha, c'était 4 à 4. D'accord ? Si là on remontait le temps à 1500 années et qu'on était dans la Masjid Nabawi après la Salat al-Isha, subhanallah, ben on aurait vu des sahaba, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiallahu anhu, majma'in, on aurait vu des sahaba qui auraient fait 4 rakats de Salat al-Isha, ni un de plus, ni un de moins. C'est-à-dire exactement le même quota que nous, d'accord ? Mais la différence, le monde qui nous sépare, c'est pas l'opposé, c'est le monde qui nous sépare, c'est quoi ? C'est la kayfiyya, la qualité de l'action. C'est pour ça que je dois être capable de faire une analyse de mon iman. Regardez, est-ce que d'année en année, j'ai de plus en plus d'amour pour Allah et pour son prophète ? Et comment se traduit l'amour pour Allah et son prophète ? L'obéissance aux ordres d'Allah et la mise en pratique de la sunna. Je dois analyser, est-ce que d'année en année, je me sens plus proche d'Allah ? Est-ce que je sens mon degré de ikhlas, de sincérité augmenter ? Est-ce que je sens la qualité de ihtisab augmenter en moi ? Est-ce que j'arrive à faire clairement la relation entre les actions que j'accomplis maintenant, bonnes comme mauvaises, et le natija et le résultat dans le akhirat ? C'est-à-dire, est-ce que je prends conscience que quand je fais telle chose qui est ordonnée par Allah, je sais qu'en finalité, il y a la promesse d'Allah, contentement d'Allah égale le paradis, et que je prends conscience également que quand je m'éloigne d'un péché, je ne dois pas ressentir que de la frustration. Quand quelqu'un ne fait pas un péché, il voulait faire quelque chose, mais il se dit que c'est haram, il ne le fait pas. En général, la personne se sent un peu triste. Mais est-ce que j'arrive à dépasser ce sentiment de frustration et me persuader que comme j'ai abandonné ce haram, je sais pertinemment que Allah a dit que man taraka shay'an lillahi 'awwadahu Allah khayran minhu, celui qui délaisse quelque chose pour rechercher le contentement d'Allah, ben Allah Ta'ala lui donne quelque chose de mieux. Je suis conscient que Allah Azza wa Jal m'accorde une récompense là-haut le jour de Qiyamah parce que je me suis éloigné de tel ou tel péché. Apparemment, personne n'a pas la clé. On ne va pas tarder, Inch'Allah. Donc c'est ça, mes chers frères, on doit essayer de travailler sur ces trois plans, sur ces trois positions, la quantité des actions, la diversité des actions et surtout la qualité de ces actions. Je pense qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Et là, on a tenté de continuer notre foi. Hein, on aurait souhaité développer un de ces points, des actions de la vie de tous les jours. Hein. Par exemple, si on parle de la salat, hein, chacun d'entre nous, si on est là ce soir, c'est qu'on a accompli la salat. Donc on peut se dire, quel est l'intérêt de rappeler aux gens l'importance de la salat. Ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a toujours une marge de progression de la salat. Il y a une marge de progression de la salat. Je ne dois pas me contenter de ce que je fais, comme l'avait dit en introduction. Je ne dois pas m'autosuffire de mes 5 salats. Peut-être que je fais mes 5 salats, mais en plus de ça, la deuxième étape après les 5 salats, c'est quoi ? C'est faire en sorte qu'à la maison, mon épouse fait ses 5 salats et mes enfants. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. La troisième étape, c'est de m'efforcer de faire ces salats en congrégation. L'étape suivante, c'est de faire en sorte que, en plus des namaz faraz, en plus de faire la salat faraz, je m'efforce de faire mes sunan, les sunan et les rawatib, les sunan, les nawafil, etc. En plus de ces namaz que je fais, j'essaie d'être présent au premier saf pour la salat en jama'a. Et le couronnement de cette salat, c'est quoi ? C'est d'arriver à un état où quand je fais la salat, je ressens l'amour d'Allah dans mon cœur. J'arrive à l'étape de dévotion, de khushu' et de khudu'. L'étape de dévotion. Et malheureusement, ça c'est une qualité qui se perd. Car dans le hadith, le prophète alayhi salat wa salam décrit la fin des temps, que viendra une époque dans une masjid, il y aura 50 personnes qui feront la salat. Il n'y a pas une salat qui sera acceptée parmi ces 50 personnes. Et ça, c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Les sahaba, ils ont demandé, le prophète a dit que la première chose qui sera enlevée de la umma, c'est quoi ? C'est al-khushu', la dévotion. La dévotion, ressentir l'amour pour Allah, ressentir la grandeur d'Allah quand je me prosterne, ressentir la grandeur d'Allah quand je lis Al-Fatiha, quand je fais le ruku', ressentir l'amour d'Allah quand je fais la salat, et al-istislamu lillah, le fait de me soumettre totalement à Allah quand je me prosterne, et cette concentration que les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in avaient, ça c'est quelque chose qui se perd malheureusement, et à la fin des temps, on ne le retrouvera plus. Donc on voit qu'il y a une marge de manœuvre énorme dans la salat. Maintenant, si quelqu'un vous demande, si quelqu'un essaie d'argumenter, il y a des gens qui sont comme ça, ça c'est un peu l'islam de l'année 2000. Il y a des gens qui se démènent dans les actions sociales, dans les actions sociales, très bonnes choses, hein, la zakat, la sadaqa, musa'ada, etc., aider les gens. Mais malheureusement, il y a des gens qui se démènent dans le milieu social, mais ils abandonnent le culte, le ibad. Ou alors ils donnent peu d'importance. Ils se disent que, oui, mais il faut être bien avec les gens, il faut bien agir. Je suis entièrement d'accord. Si une personne, il va, subhanallah, aider les personnes qui sont en difficulté, mais la personne ne doit pas oublier que le premier de ses devoirs, c'est sa relation avec Allah. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine de la religion qu'on va négliger, ben on sera automatiquement perdant. La personne qui s'occupe que de son ibadah et qui ne se fait pas de soucis pour son voisin, qui n'a pas à manger ou pour les gens de la communauté, c'est quelqu'un qui n'a pas atteint le degré de iman kamil. Mais par opposition, celui qui aide beaucoup les gens, mais qui ne voit pas trop d'importance à la salat, ben cette personne-là, elle est complètement à côté de l'objectif, pour ne pas dire à côté de la plaque. Et quand une personne, il vous dit que oui, mais aller à la mosquée, c'est bien, mais ce n'est pas tout, il faut venir en aide aux gens, il y a juste, on va pas faire un bayan sur la salat, ce n'est pas l'objectif, mais juste citer quatre points à cette personne, si c'est quelqu'un qui a iman dans son cœur. Dites juste à la personne que avant toute chose, sachez que la première chose qui a été rendue faraz obligatoire, c'est la salat. Et c'est la seule faraz qui a été rendue obligatoire directement. Allah Azza wa Jalla l'a donnée directement au prophète alayhi salatu wassalam, sans passer par un intermédiaire. Et que depuis la création des cieux et de la terre, Allah Ta'ala a décrété que cette salat sera obligatoire pour notre umma. Et enfin, que c'est la première chose à propos de laquelle nous serons questionnés le jour des comptes. C'est-à-dire que quand la personne se réveille, la première chose qu'il fait, on ne parle pas des questions dans la tombe, on parle des questions le jour de Mahshab, le jour de la résurrection. Awwalu ma yuhasabu bihi an-nasu yawm al-qiyamati min a'malihim as-salat. La première chose à propos de laquelle le musulman sera interrogé, ce sera ses prières. Si les prières sont complètes, alhamdulillah. S'il manque ne serait-ce qu'une prière, ses difficultés. Et si l'étape de la prière s'est bien passée, toutes les étapes se passeront correctement, Inch'Allah. Et si dès l'étape de la salat, il y a eu difficulté dans le hisab, ben les étapes qui vont venir après, ce seront difficultés. Deuxième point, dire à la personne qui ne donne pas l'importance à la salat et qui préfère faire autre chose de le din, c'est rappeler à la personne que la salat est une action qui nous purifie régulièrement des péchés. 5 fois par jour, le hadith très connu, hein, que la personne qui fait ses 5 salats, c'est comme celui qui se baigne dans un fleuve 5 fois par jour. Et quand les shayatines avaient parlé à Iblis, alayhi la'natullah, des sahaba, il a dit que « Nusibu binhum, thumma yaqumuna ila salat, fayumha dhalik » qu'on arrive parfois à les faire faire des péchés, mais lorsque ces gens se lèvent pour faire leur prière, ben les péchés, les efforts qu'on a fait, les péchés sont anéantis. Tout ce qu'on a fait comme travail sur eux pour qu'ils accomplissent des péchés, ce travail est réduit à néant. Et vous dites, troisième chose à ces personnes qui négligent la salat ou qui ne voient pas l'importance de la salat, que n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal a pris un engagement. Allah Ta'ala fait une promesse à l'être humain. Et quand Allah Ta'ala fait une promesse, « Inna Allah la yukhliful mi'ad » Hadith Ubad ibn Samit radiallahu anhu. Hein, peut-être nous, on manque à nos engagements. Peut-être nous, on manque à nos promesses. On a dit à quelqu'un, quand tu auras fini tes études, je vais t'embaucher, ou un jour, je vais t'aider et tout. Et arrivé ce moment, on oublie, ou alors on a d'autres situations. Mais Allah Azza wa Jalla, s'il nous a promis quelque chose, Allah Ta'ala le fera. Khamsu salawat, 5 prières. Iftaradallahu ta'ala ala ibadik, Allah Ta'ala a décrété obligatoire sur ses serviteurs. Faman ja'a biha, celui qui les accomplit comme il le faut, sans en manquer un, comme Allah Ta'ala l'a prescrit, kana lahu inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-jannah. Allah Ta'ala fait la promesse à ce musulman de le faire accéder au paradis. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Alors, en aucun cas, une personne peut se dire que je ne peux pas faire telle salat, parce que je travaille. J'ai connu une personne comme ça qui était un peu, pour ne pas dire de gros mots, un peu de difficulté. La personne n'avait pas de travail. La personne n'avait pas de travail. Et je voyais la personne à masjid tout le temps. En train de faire doigt, faire doigt, faire doigt. Il passait beaucoup de temps à masjid. Il venait très tôt. C'est-à-dire que la personne était au chômage. Donc la personne venait à masjid, il n'avait pas d'autre. Je ne dis pas qu'il n'avait pas d'autre chose à faire, mais la personne venait à masjid beaucoup. Il demandait doigt à Allah Ta'ala, lui envoie la nusra, qu'Allah Ta'ala lui envoie son aide. Et Allah Ta'ala lui a aidé. Lui a, accordé, lui a ouvert une porte de rizq, une porte de subsistance. La personne a eu un travail, un bon travail, alhamdoulilah, qui lui permet de bien gagner sa vie. Mais c'est un travail extrêmement prenant. Ce qui fait que la personne n'est plus jamais à la masjid. On ne voit plus du tout la personne. Et j'ai discuté avec cette personne il y a quelques semaines. J'ai dit que j'étais lui rendre visite dans son local où la personne travaille. J'ai dit, ben subhanallah, il y a de la place là. Il y a de la place, mais à Moussala, fais ta salah. Elle dit, non, c'est pas simple, je reçois des gens, c'est compliqué. Subhanallah. Est-ce que, subhanallah, est-ce qu'on se figure, est-ce qu'on comprend quelle est la promesse d'Allah quand je me décide délibérément d'abandonner une salah et de faire passer mon dunya, de faire passer mon kasbul rizq, hein, ma subsistance avant l'accomplissement du premier devoir du musulman. Qu'Allah nous accepte, nous donne tawfiq de comprendre, inshallah. Et la dernière chose qu'on dira à la personne qui ne comprend pas l'importance de la salah, dites-lui que le jour de la résurrection, notre prophète alayhi salat wa salam va voir la totalité des êtres humains. Et les sahaba, ils avaient ce souci au prophète d'Allah alayhi salat wa salam, « Ata'arifuna yawma idhin » un hadith qu'on a déjà cité beaucoup de fois, rapporté dans l'imam muslim, il dit qu'au prophète d'Allah, parmi toutes ces personnes qui seront là, est-ce que tu vas nous reconnaître? Est-ce que tu vas nous reconnaître? Le prophète dit « Na'am » Lakum, parce qu'il n'a pas été dit que tel ou mat c'est là, tel ou mat c'est là. Non, les gens ils seront là en quantité, collés. Et dans cet hadith, il dit que celui qui trouve assez d'espace pour que ses deux pieds soient posés sur le sol, c'est quelqu'un qui sera heureux. Enfin, heureux dans le sens où ben, il a déjà eu quelque chose. Parce qu'il y aura, subhanallah, toutes les créatures d'Allah, le jour du mahshar. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comment il va nous reconnaître. Lakum, lakum, sima, vous aurez un signe, laïsat li ahadim min al-umam, qui sera propre. Qui vous sera propre, que personne n'aura parmi les autres communautés, pardon. Taridouna alayya, hein, je vais vous reconnaître par la lumière, par le nour, par la lumière qu'il y a sur vos visages. Min ataril wudu, par la bénédiction des ablutions. Par la bénédiction des ablutions, il y aura une lumière spéciale sur vos visages. C'est de cette manière que je vais reconnaître les gens de ma communauté. Alors, subhanallah, cette personne qui délibérément abandonne une salah, rappelez-lui, rappelez à cette personne que le jour de Qiyamah, oh mon frère, oh ma soeur, mon frère, oh mon frère, comment est-ce que notre prophète alayhi salat wa sallam te reconnaîtra s'il n'y a pas cette lumière qui vient des ablutions, s'il n'y a pas cette lumière qui vient de l'accomplissement du wuzu pour l'accomplissement de la salat. Donc on prend une résolution ferme, hein, on a vu, on a eu un menu concernant la salat, faire les cinq namas déjà, ça c'est à la base, ça c'est l'entrée. On a ensuite faire en sorte que tout le monde de la famille fait la salah, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, faire les sunnats et les nafils en plus des farads, ça c'est la troisième étape. La quatrième étape, faire les prières à la masjid. La cinquième étape, être présent au premier saf pour l'accomplissement des prières au premier rang. Et la dernière étape, c'est faire en sorte de développer l'amour pour Allah, la dévotion et la concentration de la salah. Et le résultat, c'est quoi? C'est Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Un bon musulman, celui qui fait vraiment ces salats, logiquement, il ne doit plus faire de péché. Parce que cette salat amène un tel état de foi dans votre intérieur que votre foi vous empêche maintenant de faire des péchés. L'objectif de la salat, un des objectifs, les ulama disent que c'est comme lorsque je fais la salat, j'ai un contrôle total de mon corps. Pas n'importe quoi, je ne bouge pas, et j'ai un contrôle, j'essaie d'avoir un contrôle total de mon esprit, je ne pense pas à autre chose qu'Allah. Dans la vie de tous les jours, je dois avoir le même contrôle sur mes yeux, sur mes oreilles, sur ce que je dis, sur ce que je fais, et un contrôle également sur mon cœur, que mon cœur est orienté uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un deuxième point, ça on va zapper, hein, travailler notre relation avec Allah, le muraqabatullah, on développera ça une autre fois, inshallah, la pensée d'Allah permanent de notre cœur, développer la crainte d'Allah, conviction qu'Allah Ta'ala me voit chaque seconde, chaque fait et geste, conviction de ce hadith lorsque le prophète alayhi salatu wasallam dit yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla an-nahar wa 'amalu an-nahar qabla al-layl. Là on est, il est 21h, hein, il est temps, il est 21h45, au coucher du soleil, les actions que j'ai fait depuis Fajr sont déjà présentées à Allah. Et demain, au lever du soleil, les actions que j'ai faites durant la deuxième partie, c'est-à-dire depuis le coucher, le soir, jusqu'au lendemain, ces actions-là, au lever, au matin, seront déjà présentées à Allah Azza wa Jal. Être conscient qu'Allah Ta'ala voit la totalité de mes actions et qu'Allah Ta'ala, il sait ce que je fais, il sait ce que je dis comme parole. Et on va terminer avec ça. On voulait parler du troisième point, ça aussi on va zapper. Concernant l'akhlaq, l'année dernière, on avait fait à peu près la même période un programme similaire. On a dit que cette année sera l'année de l'entente, l'année de la muhabba. On essaie de ramener la muhabba avec la famille. Ben, il n'est pas trop tard hein, pour continuer à travailler dans ce sens-là. On dira juste quatre objectifs. Premier objectif, cette année, je vais faire en sorte, tous les soirs, je rends visite à mon père et à ma mère. Si j'ai mes parents qui sont encore vivants, je ne laisse pas un jour passer sans que je les rende visite. Si j'habite toujours avec eux, alhamdoulilah, ne serait-ce qu'avant de dormir, je vais voir mon papa, ma maman, j'embrasse mon père, j'embrasse ma maman, et j'obtiens le doigt, la bénédiction avant de dormir. Ça, c'est la première chose, premier objectif. Deuxième objectif, ça c'est pour les personnes qui sont mariées, d'accord? Je me fixe comme objectif de donner du temps régulièrement à ma famille, tous les jours à Yanni. Tous les jours, je tire un temps pour ma famille, et dans la semaine, je garde une soirée pour ma famille. Donner du temps, ça c'est extrêmement important. C'est plus important que de donner de l'argent. Il y a des pères qui sont chefs d'entreprise, qui sont, mashallah, très très aisés. Ils donnent de l'argent. Il y a la carte bleue avec madame, il y a le chéquier, il y a la possibilité d'acheter ce qu'elle veut. Les enfants, ils ont ce qu'ils veulent, mais ils ne donnent pas de leur temps. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais, de relation vraiment solide entre les enfants et leurs parents. Donc, fais le lien de donner du temps à ma famille régulièrement, tous les jours, et tirer une soirée par semaine pour que je consacre à ma famille. Pas forcément faire un grand ta'alim, faire des kurullah ou lecture Quran, non. Ne serait-ce que je prends mon épouse, je prends mes enfants et on passe du temps ensemble. Aller manger une pizza, aller manger une glace ou autre chose, mais passer du temps avec la famille, discuter avec les enfants, discuter avec mon épouse. Troisième objectif, cela concerne la vie conjugale. Je me fais la promesse cette année de donner du temps à mon épouse. Dans quel sens? D'être présent à ses côtés. Écouter mon épouse. Faire en sorte qu'elle ressent que je compatis avec les difficultés de sa vie. Une fois, Aïcha, radiallahu anha, elle avait raconté une longue histoire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire était tellement longue, comme si c'était interminable. Si c'était nous, on aurait dit quoi? Dis, s'il vous plaît, abrège, voilà, tu fais différentes saisons, comme 24 heures chrono. Garde la saison 2 pour l'année prochaine, sinon on n'aura plus de suspense. Voilà. Le prophète, alayhi wa sallam, était un homme tellement patient qu'il a écouté le récit de Aïcha depuis le début jusqu'à la fin, sans jamais l'interrompre. C'est-à-dire, c'était un, subhanallah, le prophète sallam était un mari exemplaire aussi avant d'être prophète. Il donnait du temps à son épouse. C'est-à-dire écouter, communiquer, montrer qu'on est présent. De jour, Allah Musta'an, il y a beaucoup de soucis de divorce et tout. À la base, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Parfois, il y a opposition de caractère aussi, c'est clair. Mais une des solutions à l'opposition de caractère, c'est quoi? C'est le dialogue. Maintenant, il ne faut pas se dire aussi que bon, ben, mal choisi, j'aurais dû choisir quelqu'un qui pense comme moi. Mais à un moment donné, c'est lassant. Si votre femme, votre épouse, votre épouse, hein, elle est, je sais pas, elle est une cousine ou quelqu'un de la famille ou je ne sais pas, il pense exactement comme vous, les mêmes habitudes, les mêmes manières de vivre, etc. Ben, mandé n'a plus madia. On mange un mangue comme ça, il mange un mangue et piment, vous mangez un mangue piment. Il faut parfois qu'il y ait des petites oppositions, il y ait des petits. Je ne dis pas qu'il faut souhaiter avoir des conflits, mais il faut parfois qu'il y ait des situations où il y a une petite opposition pour que ben, on arrive à trouver des solutions ensemble. Et quand il y a un conflit et qu'on arrive à trouver une solution ensemble, cela renforce le muhabba. Ça amène plus de plaisir de la vie, que la personne n'ait pas les mêmes goûts. Sinon, à un moment donné, ça devient tellement monotone que, à un moment donné, ça devient une routine. La vie conjugale devient une routine. Et donc, quand il y a des fortes oppositions d'idées comme ça, rien ne vaut hein, la discussion et la communication. Et comment on va discuter si on ne donne pas du temps? On ne va pas parler avec sa femme sur Facebook. On ne va pas parler avec sa femme, on ne va pas lui envoyer des messages sur MSN, des SMS. C'est s'asseoir avec elle et parler, donner du temps. D'accord? Et là encore, on dit, ce n'est pas que dit madame assise, on trappe un kitab, on lit un hadith. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'elle sente que son mari, est proche d'elle, que son mari compatit et que son mari ne réduit pas son rôle de femme, que tu n'es pas ma femelle. Voilà, c'est tout. C'est pas comme dans le règne animal où il y a le mâle et le mâle dominant et la femelle. Non, que vraiment il y a une vie commune, il y a un partage des sentiments et il y a un souci qui est mutuel. Je me fais du souci pour toi, tout comme tu te fais du souci pour moi. Ça fait rêver les jeunes, ça. Hein? Ça c'est la conception idéale de l'amour, ça. Hein? Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on nous enseigne à la télé. C'est pas ça qu'on va voir dans Secret Story ou autre chose. Non. Dans ce genre d'émission ou dans les feuilletons brésiliens ou je ne sais pas quoi, l'amour est basé autour de quoi? De la contemplation de l'autre. On aime quelqu'un parce que la personne est beau. D'accord? C'est la contemplation de la beauté qui prime. Mais maintenant, rechercher la profondeur des sentiments ou la sincérité, c'est impossible ça. C'est-à-dire, même si c'était ça, on ne pourrait pas mettre ça en valeur dans les émissions, dans les feuilletons. Ça, c'est des choses qui sont trop interdites. Et notre prophète, à travers son mode de vie, nous a montré comment le mari éprouve son amour pour son épouse. Et enfin, on terminera dans les relations avec les gens. Quatrième engagement que je me fais, c'est j'essaie de recoller les morceaux. L'année dernière, on avait parlé d'entretenir les liens familiaux. J'espère que vous avez réussi, hein, d'accord? Cette année, l'objectif, c'est quoi? C'est de recoller les morceaux. C'est-à-dire les gens qui sont un peu plus loin, les neveux, les nièces, les tontons, les cousins, ceux qui sont un peu plus éloignés, qu'on fréquente que le jour de Eid et Eid al-Adha, d'accord, les Eid et Bakrid, on fait en sorte de les ramener, de reformer le noyau familial. Pas le noyau monsieur, papa, maman et les enfants, non, un noyau beaucoup plus large, pour qu'il y ait un réel silatul rahim, pour qu'il y ait un réel échange au sein de la famille. Et une situation, une possibilité, c'est quoi? C'est par exemple organiser un repas mensuel. Organiser un repas mensuel, on réunit toute la famille, uniquement de le but d'amener Mohabba. Et la dernière résolution concernant les relations, d'accord, c'est, je me dis que, l'année dernière on avait dit à cette époque, cette année j'arrête le riba. J'arrête le riba, la médisance complètement. On irait maintenant plus loin, la médisance, alhamdoulilah, je l'ai arrêtée. J'arrête également le namima, j'arrête de colporter. Même si on m'a dit quelque chose de vrai, un tel a dit ça, la belle-sœur a dit ça, elle a fait ça. Mais on arrête de colporter, ça c'est quelque chose qui gâte les relations entre les gens. On ne colporte pas, on ne rapporte pas les défauts de son prochain. J'arrête également avec le qila wa qal. Le qila wa qal c'est magnifique, au sens créole, on a la même chose. Qila wa qal, la dit, la fait, la même chose. D'accord? Il paraît que la dit, il paraît qu'il paraît. Et l'idéal, ça c'est le top des tops, c'est d'arrêter avec les sous au von, les mauvaises pensées. Très souvent on interprète. On interprète les faits, on interprète les gestes. On interprète les paroles, on interprète même l'expression du visage. Hein, vous avez quelqu'un, je dis, il avait le visage un peu machin, il dit, ouais, là, aujourd'hui, il en fout de moi, il ne veut pas faire mon salam, il ne me regarde pas, il est comme ci, il est comme ça. On se fait des films. Et ce n'est pas nous qui nous faisons des films, c'est Shaitan. Shaitan, c'est le meilleur scénariste possible. Il va se dire que oui, il agit comme ça avec toi, donc attention, prochaine fois aussi, fais comme ça, etc. etc. Très souvent, on se construit des mauvaises opinions sur les gens, hein, uniquement par une pensée. Voilà, ça m'a dit, il y a un coup, bonne attention, mauvaise pensée, ça c'est le pire des mensonges. Et j'arrête, et j'enlève, j'essaie de faire en sorte d'enlever de mon cœur, al-hasad, la jalousie. Et dernier point, et puis on va libérer Zoubert, Inch'Allah. Dernier point, cette année, Inch'Allah, je fais en sorte d'arrêter les péchés. Pas arrêter tout, mais je fais le maximum pour m'éloigner de plus en plus des péchés que j'accomplis régulièrement, Inch'Allah, afin que l'année prochaine, à la même période, quand je fais une rétrospective, hein, je me rends compte qu'Alhamdulillah, tiens, cette année, ben, depuis un an, je baisse mon regard. Inch'Allah. Vous savez, quand on s'y habitue à un moment donné, ben, Alhamdulillah, ça devient quelque chose de naturel. Au début, c'est peut-être difficile. Tout comme une personne, je ne sais pas quel péché prendre en exemple, hein, d'accord? Mais quand, au début, abandonner, s'éloigner d'un péché, c'est difficile. Il y a besoin d'une fois. C'est comme quand quelqu'un fume et que la personne commence à arrêter, c'est difficile dans les premiers mois. Mais à un moment donné, le corps s'habitue, le métabolisme va s'habituer à l'absence de nicotine et autre chose. Pareil, on va garder le contrôle du regard. Au fur et à mesure, je vais finir par m'y habituer. Et je me rends compte, après un an, subhanallah, je ne fais plus de zina du regard. Ou alors, je ne fais plus la bise aux filles. Alhamdulillah, j'ai pu arrêter. Ou j'ai pu arrêter de faire telle chose. Voilà, on dit que, subhanallah, maintenant, depuis un an, ben, je n'ai pas provoqué la colère de mes parents, ne serait-ce qu'une fois. Depuis un an, je vois que ma maman ou papa, il ne me fait plus de reproches. Alhamdulillah, ben, c'est une avancée. Wallahi, c'est une avancée. C'est une avancée, c'est un pas de géant qu'on a fait auprès d'Allah pour obtenir l'amour d'Allah et pour obtenir le paradis. Et on terminera, la conclusion, c'est quoi? C'est une magnifique histoire qu'on avait, une anecdote parmi l'histoire de Moussa al-Salam et Pharaon, qu'on avait cité dans le 10 Muharram. Vous savez, lorsque Moussa al-Salam hein, il était devant Pharaon, il était devant Pharaon, et que Pharaon avait appelé les plus grands sorciers de la ville. Il avait appelé les plus grands sorciers de la ville pour défier Moussa alayhi salam, et qu'ils avaient jeté le bâton il tremblait un petit peu, bougeait un peu, et quand Moussa alayhi salam a jeté son bâton s'est transformé en serpent. Et là, les sorciers se sont prosternés, ils ont reconnu que ça, ce n'est pas de la sorcellerie, ça ne peut venir que du Khaliq, du Créateur. Et là, Pharaon était très en colère, il dit, de quel droit vous vous prosternez, de quel droit vous acceptez la religion de Moussa alayhi salam sans que je vous donne l'autorisation. Et qu'est-ce que Pharaon a dit à ses serviteurs, quelle était la mise en garde? لَوْقَبْتِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَوْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Il veut dire que je vais vous couper jambes et pieds, c'est-à-dire je vais vous torturer et à la fin on va vous crucifier. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. Il veut dire que c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en remet à Allah. Je me dirige vers Allah. Je n'ai pas le verset là. Je ne sais pas la fin, c'est quoi? Inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfirana. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. On ne va pas dire n'importe quoi dans le Coran. Et à la fin, en conclusion, c'était oui. Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Ils ont demandé, oh Allah, de nous accorder la patience, le sabre. Résister à la méchanceté, aux tortures du Pharaon, tout en restant ferme dans l'iman, wa tawaffana muslimin. L'objectif, c'était les derniers versets. C'était quoi? Wa tawaffana muslimin. Oh Allah, accepte-nous de quitter ce dunya avec iman. Istislam, mustaslam lillah, soumis à Allah. C'est-à-dire qu'il va nous couper jambes, c'est-à-dire couper le bras droit et le pied gauche, opposé, et crucifier, faire plein de choses, c'est pas grave. Mais oh Allah, accordez-nous la patience pour qu'on résiste à ces ibtilas, ces épreuves, et que lorsqu'on quitte ce dunya, lorsque notre âme quitte ce dunya, on quitte ce dunya avec iman en toi. Ça, c'était ceux qui étaient les plus grands sorciers d'Égypte. Ils ont vu un signe d'Allah, ils ont reconnu, ils avaient la sincérité, et ils se sont soumis à Allah, azzawajal, et même si on les torturait, en aucun cas, ils ne se rétractaient dans leur foi. Et nous, malheureusement, Allahu musta'an, pas beaucoup moins que ça, pour une question de regard des gens, pour une question d'impression que je vais donner à la société, que c'est quelqu'un qui n'est pas intégré, que c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous, d'accord? Je vais, et je ne vise personne, hein, je vais par exemple dire, bon, je ne peux pas garder ma barbe parce qu'on va dire que c'est quelqu'un extrémiste. Donc je vais me raser la barbe. Je ne vais pas mettre mes pantalons dessus de la cheville, sachant qu'il est haram, non, parce qu'on va me dire que lui, il est bizarre, lui, c'est quelqu'un de rigoureux, toute chose. C'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'on risque? On ne risque pas le licenciement, et même si c'était le cas, on ne risque pas d'être torturé, d'être mis en prison. Juste par rapport au regard des gens, je suis prêt à délaisser de sunna et je suis prêt à accomplir des choses qui sont réellement haram, réellement interdites. Je suis prêt à délaisser ma salah pour pouvoir travailler dans telle entreprise, pour avoir un peu d'argent et faire passer ça avant mon iman. Et je suis né musulman, moi, par contre. Hein. Alors que ces gens-là, ils viennent d'accepter l'islam il y a quelques secondes. Il y a quelques instants, ils ont accepté la ilaha illallah, et là, ils sont prêts à donner leur vie pour Allah, mourir, même s'ils doivent mourir après mille et une peines, mille et une tortures, mais le plus important, c'est mourir dans le contentement d'Allah Azza wa Jal. Donc, on essaie de penser à cette histoire magnifique des mu'mini Ali Pharaon, de ces gens proches de Pharaon qui ont accepté l'iman en Allah, et qui se sont dit que l'objectif final, l'objectif principal, c'est quoi? C'est de quitter ce dunya avec le contentement d'Allah. Et je vais rappeler cette petite anecdote qu'on avait citée il y a peut-être un ou deux mois et demi concernant un grand savant. Un grand savant, avant de mourir, donc, il était atteint d'un cancer qui s'était généralisé. D'accord? Donc, il n'y avait plus grand-chose à faire. Et les docteurs lui ont dit que bon, ben, il faudrait faire une chimiothérapie. Et Cheikh a demandé au docteur, ben, si je fais la chimiothérapie, quelles seront les conséquences? Il dit que ben, tu vas perdre des cheveux. Il a dit, est-ce que je perds ma barbe également? Il avait une grande barbe, il était très vieux. Il a dit, ben oui, logiquement, oui. Sinon, moi, chimiothérapie, on perd tout ça aussi. Et, il a répondu au docteur, il a dit que je ne veux pas rencontrer Allah dans quelque temps en perdant cette sunna. J'ai honte de me présenter auprès d'Allah en ayant perdu cette sunna. Donc je préfère quitter ce dunya avec la sunna de Nabi alayhi salatu wasalam sur moi et rencontrer Allah dans cet état. Et subhanallah, hein, il a été logé dans un bâtiment en face du haram à Makkatul Mukarrama et il est décédé à Makkatul Mukarrama. C'est-à-dire que lui, il s'est dit que même si c'est pour une question de soin, mais c'est vraiment les derniers moments de sa vie, il a dit qu'en aucun cas je vais sacrifier cette sunna que j'ai gardée toute ma vie et oser rencontrer Allah dans cet état. Mes chers frères, qu'Allah nous accède d'un tawfiq de mettre en pratique les quelques conseils qu'on a donnés, moi-même en premier à nous tous, et que cette année 1432, Inch'Allah, soit une année où, Inch'Allah, on fait encore plus de bonnes actions et on s'éloigne des péchés et on se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin.